Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Coronavirus, quelle évolution de la situation au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et pour en parler, nous avions invité le professeur Akori Ag-Iknan, coordinateur de la lutte contre la COVID-19, mais qui reste injoignable. Kader Fofana est là en tant que représentant de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Arande Touré, patient guéri à Tombouctou et au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré. Bienvenue à tous.
Le Grand Dialogue.
Nous allons commencer par la situation de la COVID-19 à Tombouctou notamment avec Al-Husseini Al-Hajj qui est journaliste dans la cité des 333 saints. Al-Husseini Al-Hajj, aujourd'hui, quelle est la situation par rapport à la COVID-19 à Tombouctou?
Oui, la situation du coronavirus à Tombouctou à la date du 8 juin, c'est-à-dire hier, parce que nous n'avons pas les résultats d'aujourd'hui. Jusqu'à la date d'hier, il y a eu 261 cas confirmés. C'est-à-dire les premiers cas de Tombouctou ont été signalés le 9 mai 2020. Donc du 9 mai 2020... Du 9 mai 2020 à hier 8 juin 2020, il y a 261 cas confirmés, dont 36 au camp de la MINUSMA, 221 cas pour la Tombouctou, 2 pour le district sanitaire de Goundam, 2 pour le district sanitaire de Diré. Il y a 74 patients qui sont guéris, dont 56 au centre de traitement de l'hôpital régional de Tombouctou et 18 à la MINUSMA. 15 personnes sont malheureusement décédées, dont 6 prélevées en post-mortem, c'est-à-dire c'est les gens qui ont été prélevés après leur décès. C'est là qu'on a découvert qu'ils ont le coronavirus. Donc, 7 sont décédées avant leur admission au centre de traitement. Seulement 2 personnes sont décédées au centre de traitement. Et actuellement, plus de 600 personnes actuellement suivi par les services sanitaires, des personnes qui ont été en contact soit avec des malades, soit avec des personnes qui sont décédées de COVID.
Les Tomboxiens sont-ils inquiets face à cette situation?
Allô?
Oui, il semblerait que... Oui, je demandais, est-ce que les Tomboxiens sont inquiets aujourd'hui par rapport à l'évolution du coronavirus dans leur région?
Oui, bien sûr, les Tomboxiens sont inquiets. Surtout, aujourd'hui, Tombouctou déprend la chronique par rapport à cette maladie. Vous savez qu'après Bamako, Tombouctou est la deuxième région la plus touchée, rien qu'à Nemo, parce que les premiers cas ont été signalés le 9 mai dernier. C'est vrai, les gens sont vraiment inquiets par rapport à la poussée filigrante des cas. Mais il faut dire que ces cas s'expliquent non seulement par une particularité, c'est-à-dire Tombouctou, le dépistage non seulement est précoce, massif et volontaire, au contraire des autres régions. Ici, tout le monde se connaît pratiquement. Dès que quelqu'un apprend qu'un proche est atteint de COVID, c'est lui-même qui appelle les services sanitaires pour leur dire, voilà, j'ai été en contact avec telle personne. Donc, pendant 14 jours, on suit la personne. Et au-delà de ces 14 jours, si la personne présente des signes ou autres, on teste la personne. Le dépistage est non seulement massif, volontaire et précoce. Et la particularité également par rapport aux autres régions, c'est que Tombouctou, depuis 2 semaines, a un laboratoire mobile qui était venu pour faire une dizaine de jours. Et on a prolongé ça. Maintenant, ça va rester pendant 3 semaines encore à Tombouctou.
D'accord. Merci beaucoup, Al-Husseini Al-Hajj. On va poursuivre le grand dialogue avec M. Kader Fofana. Aujourd'hui, quel est le point de vue de l'Association des consommateurs par rapport à cette lutte contre le coronavirus au Mali?
Okay. Je vous remercie. Je remercie le studio Tamani pour nous avoir associés à ce débat qui nous concerne tous, consommateurs principalement. Effectivement, c'est une situation très inquiétante. très très inquiétant dans la mesure où ce n'est plus une maladie, c'est encore moins une endémie, mais une pandémie qui touche pratiquement tout le monde. Et selon les statistiques, c'est peut-être la seule maladie qui a réussi à figer dans les maisons des centaines de millions de personnes. Ça veut dire que c'est extrêmement sérieux. Sérieux et inquiétant. C'est pas sur le continent seulement africain, c'est sur tous les continents, depuis sa genèse en Asie jusqu'à sa propagation dans le pays. Alors à ce sujet, l'ASCOMA ne pouvait pas du tout rester indifférent par rapport à ça. Surtout que c'est des trucs qui sont liés à la consommation, aux usages quotidiens des gens. Et j'avoue que l'ASCOMA est très très inquiète. Il n'est pas resté seulement à ce niveau, a pris des dispositions, a rencontré des autorités, et mieux que ça, a même fait des projets au ministre pour voir dans quelle mesure l'ASCOMA, avec d'autres associations, peut apporter leur contribution dans le fait de mettre une barrière afin que cette maladie ne se propage pas. Et j'avoue que c'est très, très inquiétant.
D'accord. Et Harandé Touré est un patient guéri de la COVID-19 à Tombouctou. Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé, nous expliquer tout le processus depuis la contamination jusqu'à la prise en charge?
Merci beaucoup.
Monsieur Touré, Monsieur Touré semble ne pas être joignable. Nous allons poursuivre avec vous, Monsieur Kader Fofana. Je rappelle que nous avons invité les autorités à travers le professeur Akori Agignan, coordinateur de la lutte contre la COVID-19, mais il reste injoignable. Kader Fofana, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les mesures prises sont à la hauteur des enjeux au Mali?
Les mesures prises, je pense qu'elles sont à la hauteur. Mais pour qui connaît mon pays, on sait qu'il ne suffit pas de prendre des mesures. Le problème de mon pays, c'est l'application des mesures. Les mesures ont beau être prises, mais s'il n'y a pas d'application, c'est comme s'il n'y a rien. Et j'avoue que au niveau des mesures, c'est élémentaire. Tout le monde le sait, c'est les mesures de protection. Mais malheureusement, elles ne sont pas suivies. Elles ne sont pas suivies au premier chef, d'abord par les autorités. Et ensuite, par les usagers que nous sommes souvent de façon inconsciente, mais aussi souvent du fait que les gens, on se demande s'ils y croient. S'ils y croient et s'ils ne pensent pas que c'est plutôt encore, je ne sais pas moi, je ne sais même pas comment qualifier cela parce que c'est inqualifiable. Quand on est averti qu'il y a une maladie, je crois que la précaution d'abord, c'est de savoir comment se protéger, comment protéger sa famille, comment protéger son environnement. Alors, si tu vois que tu existes, tu es dans le monde, c'est que tu existes. Alors, il y a une pandémie, les gens en ont parlé, c'est pas nous seulement, c'est tous les pays du monde. On a vu des trucs à la télé. Et mieux que ça, la difficulté, quand on regarde des images, c'est dommage qu'il y a des images qu'on ne peut pas montrer ici, enfin, qui ne sont pas disponibles. Mais quand on a vu des endroits, je parle de l'exemple, je l'ai vu juste hier soir, de ce pays modèle en Afrique, c'est le Rwanda. Le Rwanda a commandé une dizaine de robots. Et ce robot a permis de mettre pas à la touche, de diminuer la tâche des aides-soignantes, des dames de salle auprès des malades. Ça veut dire que c'est la conscience qui est là. Ça veut dire que c'est l'État qui a pris en charge. Nous, les consommateurs, on a envisagé beaucoup de choses, mais on ne peut pas les faire parce que c'est aussi souvent une question de moyens. Je pense que c'est extrêmement important. Et pour la mesure, je vais juste vous donner un exemple. Il y a eu un slogan célèbre, un Malien, un masque. Je remercie Studio Tamani qui respecte ce truc parce que je suis pratiquement tous vos débats. Je vois qu'au niveau, il y a la protection qui est là. Mais qu'est-ce qui gêne de faire cela? Il n'y a rien qui le gêne. Pour l'accès aux services publics, il y a certains services publics, pour y accéder, on exige de vous le masque. Et si vous n'avez pas de masque, vous avez tout de suite à l'angle quelqu'un qui vient vous dire « j'ai le masque à vendre ». Alors, souvent, je me demande, est-ce que ce n'est pas quelque chose de guidé? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est fait sciemment? Sinon, si les services disent il faut vous protéger, ils doivent fournir le masque. Si ça ne coûte rien, on va me dire que ça ne coûte rien, chacun doit être à mesure de se le procurer. Mais non, ce n'est pas facile comme ça. Ce n'est pas facile comme ça. Surtout que souvent, c'est des masques à usage unique et pas forcément disponibles et souvent qui sont vendus n'importe comment, à n'importe quel lieu. On se demande même leur efficacité. Moi, je pense que le problème se situe à ce niveau. Sinon, les mesures sont là, prises, connues, tout est facile. Sauf que dans les mesures, il y a quelque chose qui sont un peu... En fait, ils ne sont pas poussés à point. Parce que quand on vous dit de nettoyer vos mains ou de cracher dans un mouchoir et de le jeter. Mais non, pas de le jeter, mais de le mettre dans une poubelle.
D'accord. Et on va y revenir sur ça. Okay. Monsieur Harandé Touré est en ligne maintenant. Votre témoignage, monsieur Harandé Touré.
Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je participe à ce débat. Et moi, je crois que je jure que Dieu n'a pas créé une maladie aussi méchante, aussi terrible, aussi douloureuse que cette COVID-19. Précisément, moi, je ne sais pas comment j'ai eu cette maladie-là. Malgré toutes les dispositions que j'ai prises depuis le 25 mars où le premier cas a été signalé au Mali. Et tout ce que je sais, un bon matin, le premier jour du carême, je me suis réveillé et j'avais une charge à la poitrine. J'avais des maux de tête et j'avais des douleurs musculaires et aussi j'étais un peu fébrile. Alors j'ai appelé un fils qui est médecin pour lui poser la question. Il m'a dit « Non, tu n'as pas lu ». Donc il m'a dit de prendre le Coartem et ajouter du Cipronate. J'ai fait cette cure-là, mais aucun changement. Et le mal va, de la maladie augmente d'intensité. Alors là, je n'ai rien compris. J'ai été me faire à l'hôpital pour voir de quoi je souffre. Alors, les médecins même, croient que c'était un palu. Ils m'ont fait des traitements de palu. Mais quelques jours après, les vrais symptômes ont commencé. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une forte fièvre, de maux de tête, un mal de gorge et de douleurs musculaires et l'asthénie, un affaiblissement général de l'organisme. Là, les nuits, je fais de tout vraiment incessante. Et là, la détresse respiratoire a commencé. Il y avait des moments où je perdais la respiration. Et j'ai l'impression que j'avais une charge de plus d'une tonne sur ma poitrine. Et quelqu'un m'étranglait. Et je respirais à peine. Et c'est là que les médecins ont commencé à prendre la chose au sérieux. Et là, ils se sont occupés de moi. Ils ont commencé à me faire d'abord me donner les antibiotiques. Et ensuite, ils m'ont amené à faire le test. Et le test a confirmé que je suis positif. Et là, j'ai été pris en charge au centre de. À l'hôpital régional de Tombouctou, où on m'a administré les différents médicaments qu'il me faut. J'avoue très sincèrement que j'ai souffert, que j'ai vu la mort. Un moment, j'ai dit que j'ai perdu carrément la respiration. Carrément. Je n'existais même pas. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son infinie bonté, je crois qu'il m'a accordé un souci. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu, la respiration est revenue. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé. Dieu merci. Et je rends grâce à Dieu pour m'avoir accordé ce nouveau délai-là. Mais j'avoue très sincèrement que c'est une maladie pernicieuse qui est là pour faire mal. C'est une maladie vicieuse. C'est-à-dire qu'il y a un libertinage inexplicable. Et sa contamination, c'est un clin d'œil. Voilà ce que moi je peux dire en entendant sur cette maladie-là. Et que nous devons tout faire pour nous préserver parce qu'elle est très méchante. Elle tue, elle est venue pour tuer. Merci.
Votre contamination jusqu'à la guérison, ça a duré combien de temps?
Récemment, j'ai fait 27 jours de maladie. 15 jours à la maison avec les crises symptomatiques parce que les gens ne m'ont pas cru que c'était le corona. Mais les docteurs étaient à mes pieds, je leur ai dit que c'est le corona, mais ils ne m'ont pas cru. Et moi, j'ai eu la chance de faire toutes les crises symptomatiques. jusqu'à la détresse respiratoire. J'ai fait 15 ans dedans. C'est là que le médecin chef de Tombouctou avait dit que j'ai contacté quelqu'un sur lequel il doutait. Alors là, ils disent donc que je deviens une personne contact. Et là, j'ai eu la chance d'être testé. Et c'est là qu'ils ont décidé que effectivement, ce dont je souffrais, était vraiment la COVID-19. Et c'est là qu'on m'a amené dans le centre de prise en charge. Si le docteur avait su vite que le début c'était le corona, je pense que je n'en ai pas souffert autant. Mais il y a eu un retard dans mon cas, de ce qui a fait que j'ai vu toutes les détresses et toutes les phases méchantes de cette maladie-là. Donc, je remercie Dieu. J'ai pu avoir des médecins très efficaces, déterminés. L'équipe de Charles Dara, l'équipe de Mamadou Mariko de CPRS, vraiment m'ont apporté les soins qu'il me fallait. Et Dieu merci, je vais bien aujourd'hui.
D'accord. Monsieur Kader Fofana, est-ce qu'il y a une négligence dans la prise en charge du cas de Monsieur Harandé Touré? Parce qu'il dit, quand il a contacté lui-même des médecins pour leur signaler qu'il craint que ce soit le coronavirus, ceux-ci ont conclu qu'il s'agissait du pali sans avoir fait un test.
Effectivement, et vous me permettrez d'abord de souhaiter, de féliciter Harandé Touré pour avoir vaincu ce mal. Mmh. Et souhaiter aussi que beaucoup de Maliens qui sont atteints par cette maladie puissent l'éviter par la grâce de Dieu. Mmh. Et ceci étant dit, je voudrais juste aussi répondre à une phrase que je n'ai pas beaucoup compris dans ce que Harandé Touré a dit. Mmh. Quand il dit que Dieu a créé cette maladie. Non, Dieu ne crée pas le mal. Mmh. C'est nous qui nous faisons du mal. C'est un peu comme si tu dis à un enfant, ne rentre pas dans cette forêt. Et l'enfant te dit, je cherche le serpent. Mais c'est pour ça que tu le chasses. S'il va chercher, laisse-le. Mm. En fait, je pense que les mauvaises choses, c'est nous qui les attirons en nous-mêmes. Mm. Quand on dit à quelqu'un, ne bois pas de l'alcool, mais parce qu'on sait ce que ça fait. Quand on te dit, ne fais pas ça, c'est juste des mesures de présence. Je pense qu'il faut situer Dieu à ce niveau, mais pas dans la création du mal. Ceci étant dit, dans son deuxième propos, c'est l'automédication. J'ai apprécié qu'il soit resté guéri, mais je n'ai pas apprécié qu'il dise par quel processus, quel médicament il est passé pour se faire guérir, pour se soigner. Parce que les gens suivent l'automédication. Les gens vont penser que dès que vous avez le Covid, c'est ça qui soigne. Je pense qu'il a bien fait de se révéler à un service et que les structures n'ont pas pris cela en charge. Je peux comprendre comme je peux ne pas comprendre. Il y a eu un cas célèbre ici à Bamako où quelqu'un s'est déplacé pour aller à l'hôpital du Point G pour consulter si effectivement il avait le coronavirus. À son arrivée, les médecins, les aides-soignants, ils ont tous fui. Vous voyez ? Donc c'est peut-être une impréparation. Ce n'est pas qu'ils ont refusé, mais c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. Donc je pense que vous avez dit en avant, en venir, c'est les mesures barrières. Si ceci sont prises, il va sans dire que je crois beaucoup à nos médecins, je crois beaucoup à nos hommes de santé, même ceux qui sont passés par la Croix-Rouge, c'est vraiment des personnes qui ont une certaine expérience. Il suffit juste de les mettre à la tâche et de les écouter. Mais pas faire le Malien s'auto-médiquer, comme on voit partout. Les médicaments par terre, on voit. Je pense que c'est une maladie qui ne devrait pas prendre le Malien. Parce que pour un rappel, vous savez, ce n'est pas maintenant qu'on parle de se laver les mains. Il y a eu des chefs d'État qui sont passés, qui en ont fait un slogan, une journée spéciale. Alors je crois que si on suit ces mesures élémentaires, c'est sûr que ça va se radiquer. Le mal qui peut nous permettre aussi de conjurer, c'est peut-être les fréquentations. Je ne sais pas si vous avez prévu qu'on en parle, mais les fréquentations, l'isolement. Parce que c'est des foyers où on peut s'échanger très facilement quand il y a une rencontre de plusieurs personnes. Je lui ai dit, vous soignez pour votre famille. Mais il est prévu aussi l'isolement. Il n'en a pas parlé. Est-ce que quand il est tombé malade, il s'est isolé d'abord? Ou quelles sont les dispositions qu'il a prises pour protéger sa famille ou ses proches? Je pense que c'est des éléments extrêmement importants. S'il peut nous donner des expériences sur ce plan, je pense que c'est beaucoup incitatif et éducatif. Maintenant, les services de la santé, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ça fait, Dieu merci, grâce à l'ASCOMA et à ma présidente, que je salue au passage, qui devrait être là, mais pour une raison de santé, elle n'est pas malade, mais elle a voulu juste se reposer un peu. Donc, J'ai côtoyé le ministère de la Santé pendant très longtemps et j'ai suivi beaucoup d'aspects dans le domaine de ce qu'on appelle One Health, une seule santé. Et c'est des sujets dont on a parlé, pas Covid, parce que Covid n'existait pas. C'est des sujets dont on a discuté. Et au niveau de l'ANSA, il y a beaucoup de mesures qui avaient, des dispositions qui avaient été prises avec l'ASCOMA pour faire ça. Mais je l'ai dit, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de mesures d'application et tant que le citoyen n'est pas conscient qu'on le fait pour lui, on demande à lui, l'enfant, de ne pas aller dans le fourré et qu'il refuse de chercher le serpent, que ce sera très difficile aux autorités de conjurer ce mal qui peut atteindre chacun de nous. Que Dieu nous en garde, nous en préserve.
D'accord. Alors, M. Harandé Touré, avez-vous été isolé? Est-ce que votre famille a pu échapper à une possible contamination?
Merci beaucoup. Je crois que M. Keder va nous pousser à développer et je vais prendre assez de temps. Parce que moi, je suis tombé malade le 24 avril, le premier jour de la fête du carême. Et je dis qu'il n'est pas fait l'automédicamentation. Non, je ne l'ai pas fait. Mais seulement, j'ai vu beaucoup de signes précurseurs de cette maladie-là. Et j'ai été me faire consulter. Mais avant ma consultation, les médecins ont découvert que je fais un bronchopneumopathie. Et moi, je n'étais pas d'accord que c'est un bronchopneumopathie. Pour moi, c'est bel et bien le corona parce que tous les symptômes l'indiquent. Mais ils n'ont fait le traitement qu'il faut. Et ils ont leur agenda, ils disent que ce n'est pas le corona. Mais moi, j'étais convaincu que j'avais le corona. Et j'ai pris la décision que j'ai le corona le 30 avril. Et là, j'ai pris la décision de ne plus aller à la mosquée. J'ai pris la décision de ne plus aller sur la place publique. J'ai pris la décision de ne plus aller au lieu de rassemblement. Et j'ai pris la décision de ne plus me regrouper avec ma femme. Donc, je me suis confiné moi-même dans mon antichambre. Et de temps en temps, je recevais la visite de mon médecin, Mamadou Marikou, qui venait pour me voir, me consulter et me donner les médicaments qu'il faut. Il m'a donné tous les antibiotiques nécessaires et il m'a donné vraiment un très bon soin. Mais néanmoins, j'ai fait quand même les crises symptomatiques. C'est-à-dire allant à la fièvre, mal de gorge, etc., etc., le problème de respiration et jusqu'à la dépression. Donc, effectivement, j'ai protégé ma famille. J'ai protégé mes enfants parce que je me suis éloigné d'eux. Et ce que je n'ai pas pu protéger, c'était mon épouse. Parce que là, il y avait un moment où je ne pouvais rien faire. Parce que j'étais fatigué, la respiration était haletante. Elle se coupait de temps en temps, je cherchais l'air comme un poisson qu'on venait de faire sortir du fleuve et qu'on dépose à terre. Voilà comment il ouvre les branchies pour chercher l'oxygène. C'était comme ça que j'étais à un moment. Mais en même temps, j'avais un grand docteur, j'avais le docteur Mamadou Marikou du Pérez, qui était là à côté de moi et qui me donnait les soins et qui m'aidait quand même à recouvrir ma santé. Donc j'avoue très sincèrement, toute ma famille, tous mes enfants ont été testés négatifs. C'est-à-dire que je me suis isolé et j'ai pu protéger ma famille. Donc, mes épouses ont été testées positives et elles ont reçu les soins qu'il faut. Et aujourd'hui, tout le monde a son certificat de guérison.
Donc, vous et vos épouses qui ont été testées positives sont tous guéris aujourd'hui. Vous êtes tous guéris.
Tout le monde est guéri aujourd'hui.
D'accord. Mais à Tombouctou, est-ce que la population croit à l'existence de cette épidémie? Est-ce que les gens ne banalisent pas?
Je vous jure, au départ, les gens ont banalisé ça. Mais depuis mon intervention, parce que j'ai fait tellement d'interventions sur les médias, j'ai fait des vidéos pour montrer la réalité de cette maladie. Depuis lors, je crois que les gens ont pris conscience. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que du corona. La ville est paniquée et les gens sont en train de prendre des dispositions vraiment pour se protéger. Et je crois que mes postes ont apporté quelque chose de positif à la population. Et tout le monde m'a appelé pour me féliciter. J'ai eu des félicitations de partout pour me dire que, très sincèrement, vous avez été utile à la population. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui n'y croient pas encore. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne prennent aucune mesure barrière. Mais je crois que nous allons encore continuer à les sensibiliser pour les montrer la dangerosité de cette maladie-là et ce qu'ils peuvent vraiment encourir à leur famille, à leurs enfants, à leurs épouses. Et je crois que nous y parviendrons dans les jours à venir.
Monsieur Fofana, Monsieur Touré dit avoir pu s'isoler, se confiner. Mais est-ce que dans la culture malienne aujourd'hui, il est facile? Est-ce qu'on rencontre assez de malades qui arrivent à s'isoler et à se confiner autant?
C'est pas facile. C'est pas facile. C'est très difficile le confinement au Mali. Et dans la mesure où, heureusement, que les enfants sont plus ou moins éloignés de cette maladie, pour la simple petite raison de leur taille. Dans une de nos gestes, on demande d'observer 1,5 mètre ou 2 mètres. Et quand la salive sort, il se trouve que l'enfant est à un niveau qu'il ne peut pas l'atteindre. C'est juste peut-être pour ça qu'ils ne sont pas protégés. Mais j'avoue que j'ai beaucoup apprécié son isolement. Et pour un Malien, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile de s'isoler. Je voudrais qu'après, il nous rappelle par rapport à la mosquée. Lui, il a abandonné la mosquée. Mais qu'il nous parle de la mosquée à Tombouctou. Est-ce que cet isolement existe? Est-ce que ces mesures sont un peu observées? Un. Qu'il nous parle aussi des cérémonies. Il y a beaucoup de cérémonies très importantes, culturelles, religieuses qui se déroulent à Tombouctou. Il y a eu la fête tout récemment. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la population? C'est vraiment des sujets extrêmement importants sur lesquels peut-être qu'il faut connaître et savoir peut-être dans quelle mesure, quelles sont les dispositions qui sont à prendre pour permettre aux Maliens d'observer l'isolement. Il y a quelque chose qui, lui, il est un exemple, je pense, qu'il faut montrer à la population. Parce que ce qu'on a remarqué à Bamako, c'est que c'est les politiques qui ont commencé d'abord à se déclarer avoir été atteints par le Covid. Je préfère dire Covid, j'explique pourquoi. Parce que ce n'est pas le coronavirus, non. C'est le Covid. Coronavirus diseases, c'est-à-dire la maladie qui est transmise par le coronavirus. Le coronavirus n'est que le mal, mais c'est la maladie qu'il faut ajouter. Donc, eux, les politiques ont commencé à se déclarer. Je ne vais pas citer des noms, chacun connaît, mais la population va penser que c'est la maladie des riches. Tant qu'on ne montre pas le commun des Maliens, qui est atteint par cette...
Certains même ont pensé qu'il s'agit d'une maladie politique.
Politique,
que les
exactement.
Les politiques l'ont amené, que c'est une stratégie.
Exactement. C'est une stratégie pour eux. Et ça ne va pas les toucher à eux, parce que ça dépend de eux qui voyagent beaucoup, qui sont en contact avec les gens. Eux, ils sont dans leur maison, ça ne l'arrive pas. Non, ce n'est pas le cas. Mais je pense que le cas de Randan, c'est vraiment un exemple qu'il faut essayer de divulguer le maximum que possible. Et je disais tantôt que par rapport au niveau de contamination... Donc, si les dispositions sont prises, chacun reste isolé dans son coin. L'isolement, c'est quoi? C'est rester chez soi, dans la mesure du possible. C'est-à-dire, tout ce qu'il n'est pas obligé de faire, qu'il n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un, ne part pas. Si, en allant résoudre un problème, tu peux le faire par le téléphone, pourquoi ne pas le faire? Et je pense que beaucoup de dispositions sont là, maintenant, pour nous permettre de résoudre des choses par le téléphone, sauf réclamer un prêt, parce que si tu veux prendre ton prêt avec quelqu'un, tu téléphones, il va te dire qu'il n'est pas là. Donc, à part cela, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par l'isolement. Pas forcément par la présence physique. Et les opérateurs, peut-être téléphoniques, ils nous envoient toujours des messages, et tant. Non, ce n'est pas le message. Il faut diminuer le prix de la communication. Ça va permettre aux gens de rester chez eux. Je pense que c'est des dispositions, peut-être on va en parler, c'est des dispositions que l'État devait ajouter, mais ne pas leur faire participer dans le budget qui est prévu pour gérer le Covid-19. Non, ne pas leur donner de l'argent. C'est à eux de donner de l'argent à la population qui a besoin de ne pas sortir, mais de résoudre ses problèmes. On a vu en Europe, on a demandé aux gens de rester chez eux. Il y a même des dispositions salariales ou financières qui ont été prises en faveur des travailleurs. Mais si le Malien sort pour chercher le prix du condiment et l'envoyer par le téléphone à la maison ou faire partir son enfant avec lui pour trouver quelque chose pour ramener à la maison, il va s'indiquer, si vous lui demandez de rester à la maison, c'est extrêmement compliqué. C'est très, très compliqué. Il y a d'autres dispositions qui devaient être prises, qui n'ont pas été suivies. C'est notamment l'éducation. Et je crois que c'était vraiment le moyen pour nous de rester à la maison, et de savoir qu'on peut apprendre en restant chez soi, à ne pas bouger.
Et je fais pas mal de que la réouverture, la décision de rouvrir les écoles n'est pas une bonne décision face à cette pandémie.
Je crois que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision, mais il y a des mesures qu'il faut associer à cela. Il y a des mesures indispensables qu'il faut associer à cela. Parce que quand on ferme l'école, ce n'est pas bon. Je sais que, on va dire que je fais du mal à l'Occident. Non. Mais je pense que c'est dans votre famille, si vous avez beaucoup plus d'intellectuels que la famille en face, vous serez content. Donc je pense que l'intérêt de l'Europe, c'est peut-être qu'on reste chez soi, qu'on n'aille pas étudier. Mais qu'on reste ça pour étudier, qu'on nous donne au moins, qu'on se donne, nous, les moyens d'étudier. Et je vois les opérateurs de téléphonie, les opérateurs, d'Internet, nous donner la possibilité d'accéder à cette information, d'accéder à cette éducation à la maison. Alors, ouvrir l'école, ça peut avoir plusieurs sens. C'est pas forcément avoir des places pléthoriques de 100 personnes, mais c'est de prendre des dispositions pour que les enfants puissent étudier, quitte à faire, pourquoi pas, des vacations le matin, il y a un groupe qui vient le matin, il y a un groupe qui vient le soir, et s'il y a l'électricité, pourquoi pas des groupes le soir.
Et sur Studio Tamani, de 10h à 11h tous les jours, pour les élèves de la première et la deuxième année, vous pouvez suivre notre programme éducation, l'école à la radio, qui est destinée à ces différents élèves-là. Mais aujourd'hui, quand on voit de façon globale au Mali, on a l'impression qu'il y a plus de cas de jour en jour, mais en ville, on a l'impression qu'il n'y a plus de coronavirus. Qu'est-ce qui explique cette situation ?
C'est dû au fait que le Malien est toujours à la recherche du quotidien. Je l'ai dit, les gens ont le prix du condiment quand ils sortent. On ne passe pas la nuit avec. Rares sont ceux qui mettent le prix du condiment au chevet du lit. On sort pour chercher. Ou on a, mais on ne l'a pas pour le lendemain. Donc, si à une personne comme ça, vous demandez de rester à la maison, c'est vraiment difficile. Donc, les exemples, on en voit en ville. Je l'ai dit, les gens tantôt ne croient pas. C'est pas qu'ils ne croient pas, mais ils se disent, bon, c'est une fatalité, c'est Dieu seul qui nous sauve. Que l'on reste à la maison ou qu'on sort, si on doit mourir, on va mourir. Ça, c'est dans le commun du Malien. C'est peut-être une fatalité, croire au sort. Mais on peut croire au sort, mais je l'ai dit, la maladie, on l'achète. On prend la maladie. Je prends l'exemple d'une maison de plaisir. Il y a une maladie qu'on attrape là-bas, mais que tu ne vas pas attraper dans ton lit. C'est en sortant que tu l'attrapes. Donc le mal, on se le donne à soi.
Il semblerait qu'aujourd'hui, les boîtes de nuit et les bars ont commencé à fonctionner encore.
À fonctionner. Et malheureusement, les mesures barrières ne sont pas observées. On m'avait demandé à un moment d'aller voir pour l'ASCOMA où est-ce qu'on en est. Mais j'avoue que je n'ai pas eu besoin d'entrer en passant devant, vu l'atmosphère. Mais j'ai vu qu'il y avait plus de monde maintenant qu'avant. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer parce qu'on sait déjà ce qui se passe. C'est toujours, c'est pas de l'ignorance, c'est toujours la recherche du quotidien. Parce qu'il y a aussi un vice chez nous. Je m'excuse de le dire, mais vous allez voir que quelqu'un peut vous donner de l'argent, mais il va vous demander d'aller le rencontrer dans un endroit où il a la possibilité de se montrer, de montrer qu'il a les sous et c'est en ce moment qu'il vous sert. Mais si vous voyez entre vous deux, il va pas vous donner. Parce qu'il veut faire un peu de pub. Alors, c'est des attitudes peut-être négatives du Malien. Je ne dis pas tous les Maliens. Mais je pense que le coronavirus, DISAGIS, doit nous permettre de corriger un certain nombre de choses. Sinon, la maladie, elle existe et elle est réelle à 100%.
Et on va y revenir. Monsieur Harandé Touré, il paraît qu'à Tombouctou également, vous avez été victime, vous aussi, et nombreuses autres personnes qui ont été malades de la COVID-19, de stigmatisation. Certains pensent que les malades sont payés à 30 000 francs CFA pour déclarer qu'ils sont contaminés.
Merci. Moi, je crois que c'est de la rumeur, c'est de la fausse rumeur, c'est une rumeur méchante. Comment des gens qui sont malades, on va leur donner 30 000 francs? J'ai appris vraiment cette rumeur et j'ai dit même sur des antennes, ceux qui veulent recevoir 30 000 francs, qu'ils se portent malades et qu'ils partent au centre de prise en charge, ils verront s'ils vont recevoir 30 000 francs. Mais je voudrais dire à M. Kader, par rapport aux mosquées, la mosquée, comment je fréquente, c'est la mosquée de Dingaréber. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises. Il y a des lavages de mains. Il y a des gels, on ne rentre pas sans se laver les mains et sans utiliser le gel alcoolique. Et l'imam a demandé à ce qu'il y ait la distanciation entre les fidèles. Donc, des discussions sont prises. Ceux qui ont les pénicillines précurseurs du coronavirus, ceux-ci se confinent en entendant que leur productivité soit assurée et soit déterminée. C'est ce que je dis. Sinon, si on dit qu'on peut confiner une population, comme ça, à Tombouctou ou ailleurs au Mali, c'est pratiquement impossible. Parce que ça dépend, comme il l'a dit lui-même, le quotidien des Maliens, vraiment, les empêche de se confiner. Là, le confinement au Mali, quand même, c'est impossible. Moi, je me suis confiné parce que j'ai vu les signes. Et là, je me dis que si je ne me confine pas, je vais vraiment contaminer d'autres personnes et ce n'est pas normal. C'est pourquoi moi, je me suis confiné. Et beaucoup de gens ont suivi mon exemple. Dès qu'ils ont senti les premiers signes, ils ont préféré se mettre à l'écart ou bien aller faire le dépistage au centre de prise en charge. Maintenant, par rapport aux malades, effectivement, à Tombouctou, il faut reconnaître que nous sommes infectés. Tombouctou est infecté. Vraiment. La maladie saisit. La maladie est à Tombouctou. Et Dieu merci, grâce à l'arrivée de M. le ministre de la Santé, il était venu nous voir parce que moi, j'étais malade lors de son arrivée. J'étais au centre de prise en charge. Et j'ai essayé même de le contacter. Malgré qu'il était à une certaine distance de moi, j'ai dit, monsieur le ministre, Tombouctou est infecté et Tombouctou est affecté. Nous avons tellement de malades dans les familles et les familles sont paniquées. Il est urgent, monsieur le ministre, que vous nous apportiez vraiment un laboratoire à Tombouctou. Mais ça ne va pas. On ne peut pas attendre. Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On fait le prélèvement. Il faut attendre le jour où l'avion Nunas arrive pour mettre vraiment les produits afin qu'ils puissent passer à Bamako. Mais moi, j'ai été testé, par exemple, un dimanche. Lundi, il n'y a pas d'avion. Mardi, il n'y a pas eu d'avion. Mercredi, il n'y a pas eu d'avion. Il fallait attendre le mercredi pour que mes tests partent à Bamako et qu'ils me reviennent peut-être le vendredi ou le samedi. Mais combien de temps ça prend? Et combien de temps je gagne pour contaminer d'autres personnes? Alors, le ministre a été très sensible aux différentes revendications et Dieu merci, Tombouctou a eu un laboratoire mobile. Donc, on peut faire les tests aujourd'hui et quelques heures après, on a le résultat. Et cela est en train de briser, de casser vraiment la chaîne. Ça, c'est vraiment un atout. Nous sommes très contents de cela et cela a soulagé la population. Et jusqu'à présent aussi, je crois que tout le monde est debout. Parce que nous savons que Tombouctou est infecté et ce qui est grave encore, ça rentre dans les autres cercles, Gundam, Diri, etc., etc. Et là aussi, si nous ne prenons pas garde, vraiment, il y aura vraiment, la pandémie va s'élargir sur toute la région. Et là, je crois que des solutions sont prises et de bonnes volontés sont là pour vraiment aider les hôpitaux, aider les centres de santé, aider les associations pour que vraiment il y ait une large sensibilisation. Très sincèrement, j'avoue que Tombouctou est infecté aujourd'hui. Mais avec vraiment la bonne volonté des uns et des autres, je crois que la chaîne commence à se briser.
Merci, Monsieur Touré. Monsieur Fofana, est-ce qu'au-delà de Tombouctou, les autres régions, au niveau des zones rurales, bénéficient de ces mêmes ressources pour pouvoir faire face, contrôler ou lutter contre la COVID-19?
Non. Les autres communautés ne bénéficient pas de ces ressources. Il a dit, pour faire déplacer un laboratoire mobile, il a fallu qu'on demande, il a fallu qu'on prouve la nécessité. Et combien de laboratoires mobiles il y a au Mali? Il n'y en a pas assez. Même si je ne le souhaite pas, il y a une propagation au niveau de la ville de Bamako, ce serait difficile de doter toutes les communes d'un laboratoire mobile. Alors, pour en venir à la mosquée, je voudrais juste dire à M. Randan que si on a observé la Mecque, c'est là-bas qu'on prend la religion, c'est là-bas qu'il y a les trucs de la religion musulmane. On a fermé la Kaaba. Il y a des gestes qu'on a fait à la Kaaba qu'on doit faire dans nos mosquées. Tantôt, on a dit que c'était au gouvernement de fermer les mosquées. Non. Le président ou l'État n'a pas d'autorité sur une mosquée. Au niveau de la mosquée, la gestion se fait par le comité et par l'imam. Alors, si l'imam a pris des dispositions pour distancer les gens, je pense que le mal n'est pas fait, le bien n'est pas fait d'abord. Et quand on demande aux gens de se laver les mains, c'est pas, jusqu'à présent, ce n'est pas comprendre. Ce n'est pas compris. Le mal de la mosquée. Moi, je suis gestionnaire dans une mosquée. J'ai abandonné la mosquée. Au regard d'un comportement. Pendant le Ramadan, on venait suivre les tafsirs. Il y a des gens qui se couchaient et qui dormaient. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que couchés, ils ont de la morve qui descend. Ou ils se mouchent, ils souillent le tapis. Mais ce n'est pas le lavage des mains dehors qui va te protéger de ça. Tu te laves les mains et tu viens prendre un microbe. Alors, qu'est-ce que j'ai observé? Que au niveau de la Mecque, chacun a sa nappe de prière. Ils ne sont pas nombrés d'abord. Les distances sont observées, devant et derrière. Il y a la nappe de prière. Et tu pries sur ta nappe de prière. Après, tu la pries et tu ressors avec. Une fois que tu quittes, ça vient balayer. On vient balayer. Mais ce n'est pas le cas dans nos mosquées. On prie, les distances ne sont pas observées. Il suffit que quelqu'un se déplace pour que l'autre, on lui demande de revenir prendre sa place. Alors, tu ne peux pas avoir ta natte, on prie sur la même natte. On se couche, on baisse la tête, les rituels de la prière. Il n'est pas exclu que vous laissez quelque chose sur le tapis.
D'accord. Mais également, au-delà des mosquées, vendredi dernier, vendredi 5 juin, il y a eu une grande manifestation à Bamako qui a mobilisé de nombreux, des milliers de Maliens, et nombreux d'entre eux n'ont pas respecté les mesures barrières, distanciation sociale, port du masque. Faut-il craindre dans les jours à venir une explosion du taux de contamination à Bamako?
Oui, moi je crois qu'il faut craindre. Il faut craindre et il faut prendre des dispositions pour essayer de contrôler sa température, pour essayer de contrôler tous ceux qui vont aller sur le meeting. Je prends pour référence même ceux qui étaient à la tribune. On pouvait dire qu'ils n'avaient même pas aussi des protections. Ensuite, quand ils parlaient dans le micro, ils avaient le micro. Et on crache dans le micro.
Les organisateurs eux-mêmes.
Et une fois qu'ils sont partis, le microbe, il reste sur le micro pendant au moins une heure ou deux. Dès qu'il part, c'est le journaliste qui vient prendre son micro. Donc, est-ce qu'il est à l'abri de cette contamination? Il n'en est pas à l'abri. On a vu des endroits où si vous regardez les chaînes, on met un fil sur le micro. Une fois qu'ils finissent, ils enlèvent. C'est un peu comme un gant. Ces dispositions n'étaient pas prises. La distanciation n'était pas du tout observée. Pire que cela, on s'embrassait même. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose pour qu'on se tape les mains. On était content, dans la joie. On avait même oublié qu'il y a un autre ennemi qui est plus virulent que celui qu'on veut chasser. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut craindre. Il faut craindre, et c'est à l'État, encore une fois à l'État, et aux populations, de s'investir pour savoir que le mal existe, que ce n'est pas une fausse nouvelle. Et dire que les gens prennent de l'argent pour le faire, si tu penses qu'avec 30 000 francs, tu peux soigner une maladie, mais il faut le prendre. Je pense que c'est... On n'est pas à l'abri, hein. Vraiment, on n'est pas à l'abri.
D'accord. Alors, Monsieur Harande Touré, aujourd'hui, vous êtes guéri de la COVID-19. Est-ce que vous sentez... Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Très simplement, je me sens énervé par la fatigue de la maladie. Et j'avoue très simplement que nous avons un personnel hospitalier, de médecins très, très dynamique et qui s'occupent vraiment des malades et qui font le meilleur domaine pour que nous puissions recouvrer notre santé.
D'accord.
Moi, je voudrais quand même bondir par rapport à M. Ferrer concernant les mosquées. Moi, aujourd'hui, dire qu'on va fermer les mosquées au Mali, vraiment, c'est très difficile. Aucun imam ne peut prendre cette décision. Parce que même si vous prenez, il y aura des gens qui vont dire et redire. Il y aura des gens qui vont critiquer. Il y a des gens qui vont faire sortir certaines choses de la religion et qui vont les mettre mal à l'aise.
D'accord. Il nous reste quelques secondes, monsieur Touré, pour avoir été contaminé par cette maladie. Quel appel avez-vous à lancer à ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne se protègent pas et ceux également, et aux autorités également qui doivent apporter des solutions aux malades?
Mais moi, je crois que l'appel que je dois lancer, c'est qu'il faut que les autorités d'abord puissent prendre des décisions fortes, puissent mettre vraiment les agents dans des très bonnes conditions de travail. Ça va protéger les agents sanitaires afin qu'ils puissent mieux s'occuper des malades. Équiper les hôpitaux. Parce qu'ici, à tout moment, on n'avait pas de respirateur.
D'accord. Et est-ce que les gens doivent croire en cette maladie?
Vraiment, je demande à ce que les gens croient à cette maladie, elle existe.
D'accord.
Et je demande à ce que... Il faut que les gens respectent les mesures barrières. Il faut que nous arrivions à laver nos mains proprement à chaque fois. Il faut que nous portions nos masques. Il faut que nous respections la distanciation. Il faut que nous fassions toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé. Nous devons le faire pour nos épouses, nous devons le faire pour nos époux, nous devons le faire
pour nous-mêmes également. Merci, merci vraiment, Monsieur Touré. Merci beaucoup, merci Monsieur Touré. À vous, Monsieur Fofana, rapidement, quelques secondes.
Je voulais juste dire, je n'ai pas demandé de fermer les mosquées. Mm-hmm. Non, pas du tout. Mm-hmm. J'ai d'observer les gestes barrières dans les mosquées.
D'accord. Voilà. Et vous demandez à tous de croire en cela. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières qui ont été annoncées par le ministère de la Santé. Merci à nos invités. Kader Fofana, représentant de l'Association des consommateurs du Mali Ascoma, Harande Touré, patient guéri à Tombouctou. Et je rappelle que nous avons invité les autorités à travers le professeur Akori Akiknan, coordinateur de la lutte contre la COVID-19, mais il n'est pas venu. À la régie vidéo et audio, Peting Diarra et Gani Kanté, je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Dmondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.